Ivanhoé, chapitre 33. Les traits de l'abbé captif et ses manières offraient un mélange fantasque d'orgueil blessé, de fatuité chiffonnée et de terreur évidente. « Eh bien, qu'est-ce donc, mes maîtres ? » dit-il d'un ton de voix où l'on reconnaissait ses diverses émotions. « Que signifie une telle conduite ? Êtes-vous des Turcs ? Êtes-vous des chrétiens ? Vous qui traitez ainsi un homme d'église ? Savez-vous ce que c'est que de manus imponere in servos domini ? Vous avez pillé tous mes coffres, déchiré ma chape de dentelle brodée, qui était digne d'un cardinal. Tout autre à ma place aurait déjà eu recours à son excommunico vos. Mais je suis clément, et si vous me rendez mes pales froids, si vous relâchez mes frères, que vous restituiez mes coffres, si vous vous hâtez d'envoyer une centaine de couronnes pour être dépensées en messe au maître-autel de l'abbaye de Jorvaux, et que vous fassiez vœu de ne pas manger de venaison jusqu'à la Pentecôte prochaine, il pourra se faire que vous ne m'entendiez plus parler de cette folle espièglerie. « Révérend père, dit le chef des outlaws, j'apprends avec peine que vous avez subi de la part de mes hommes un traitement qui mérite vos réprimandes paternelles. » « Un traitement ? » répéta le prêtre enhardi par le ton doucereux du capitaine forestier. « Ce traitement ne conviendrait pas à un chien de bonne race, bien moins à un chrétien, à plus forte raison à un prêtre, et par-dessus tout au prieur de la sainte communauté de Jorvaux. Voici un ménestrel ivre et profane, qu'on appelle Alan Adal, nebulo quidam, qui m'a menacé d'un châtiment corporel, bien plus, de la mort même, si je ne payais pas 400 couronnes de rançon en su de tous les trésors qu'il m'a déjà dérobés, des chaînes d'or et des bagues, d'une valeur inconnue, sans compter ce qui a été brisé et gâté par des mains grossières, entre autres, ma boîte et mes fers à friser en argent. Il est impossible qu'Alan Adal ait traité de la sorte un homme de votre importance, répondit le capitaine. « C'est pourtant aussi vrai que l'évangile de saint Nicodème, » répondit le prieur. « Il a juré avec maints affreux serments de votre pays du Nord qu'il me suspendrait à l'arbre le plus élevé de la forêt. »« A-t-il vraiment dit cela ?» reprit Locksley. « En ce cas, mon révérend père, je vous conseille de vous rendre à ces instances, car Alan Adal est homme à tenir sa parole quand il l'a ainsi engagé. » « Vous voulez plaisanter ?» dit le prieur interdit en s'efforçant de rire. « Et j'aime de tout mon cœur les bonnes plaisanteries. Mais quand la gaieté a duré toute la nuit, il faut redevenir grave le matin. »« Et je suis aussi grave qu'un père confesseur, » répliqua l'outlaw. « Il faut que vous payiez une grosse rançon, sire prieur, ou bien votre couvent devra faire une nouvelle élection, car on ne vous y reverra plus. » « Êtes-vous chrétien ? » demanda le prieur. « Vous qui tenez ce langage à un membre du clergé ?»« Chrétien, oui, certes, nous le sommes. Et qui plus est, nous avons un prêtre parmi nous, » répondit l'outlaw. « Que notre jovial chapelain vienne ici. Il expliquera au révérend père les textes qui se rapportent au cas actuel. » Le frère, à moitié ivre, s'était affublé d'un froc de moine passé par-dessus son habit vert, et, appelant à son aide tous les lambeaux d'érudition qu'il avait appris par cœur dans sa jeunesse, « Saint-Père, dit-il, Deus faciat salvam beninitatem vestram, vous êtes le bienvenu dans la forêt. »«
Quelle est cette momerie profane ? » s'écria le prieur. « Ami, si tu appartiens réellement à l'Église, tu ferais mieux de m'indiquer un moyen de sortir des mains de ces hommes que de faire devant moi des contorsions et des grimaces comme un baladin.
« Vraiment, révérend père, dit le moine, je ne connais qu'une voie de salut pour toi. C'est aujourd'hui chez nous la fête de Saint-André et nous prélevons nos dîmes.
« Mais vous ne les prélevez pas sur l'église, j'espère, mon bon père, dit le prieur. « Sur le clergé comme sur les laïcs, répondit le moine. « Et par conséquent, sire prélat, facite vobis amicos de mammone iniquitatis. Faites-vous des amis du mammon d'iniquité, c'est la seule amitié qui puisse vous tirer d'affaire. » J'aime de tout bon cœur les bons forestiers, dit le prieur en adoucissant sa voix. Allons, ne soyez pas trop exigeant envers moi. Je m'entends aussi aux exercices de la chasse, et je sais sonner du cor clairement et bravement, et crier à faire retentir la forêt de mes airs de halali. Allons, il ne faut pas agir trop sévèrement avec moi. Donnez-lui encore, s'écria Locksley. Nous allons juger de l'adresse dont il se vante. Le prieur Heimer prit le cor et sonna une fanfare. Le capitaine secoua la tête. Sire prieur, dit-il, tu nous souffles une note joviale, mais cela ne saurait t'acquitter. Nous ne pouvons consentir, comme le dit la légende du bouclier d'un bon chevalier, à t'élargir pour un coup de vent. Tu es de ceux qui, par les nouvelles grâces françaises et les traliras, déplacent les anciennes notes du cor anglais. Prieur, ta fanfare du rappel a augmenté ta rançon de 50 couronnes, car tu as corrompu la simplicité et la vigueur des vieux sons de vénerie. Mon ami, répondit aigrement l'abbé, tu es difficile en vénerie, mais je t'en prie, sois plus équitable dans l'affaire de ma rançon. En un mot, puisqu'il faut, pour une fois que je tienne la chandelle du diable, quelle somme dois-je payer pour pouvoir parcourir Watling Street sans avoir 50 hommes à mes trousses ?
Ne serait-il pas convenable, dit à demi-voix le lieutenant de la bande à l'oreille du capitaine, que la rançon du prieur fût fixée par le juif et celle du juif par le prieur ?
Tu es un fou gaillard, dit le capitaine. Mais ton désir est superbe. Allons, juif, avance. Regarde ce Saint-Père Heimer, prieur de la riche abbaye de Jorvaux, et dis-nous à quelle rançon nous devons l'imposer. Je garantis que tu connais les revenus de son couvent.
Oh, assurément, répondit Isaac. J'ai trafiqué avec les bons pères, et je leur ai acheté du froment, de l'orge, des fruits de la terre et de grandes quantités de laine.
Ah, c'est une riche abbaye. On y fait bonne chère et ils y boivent les meilleurs vins, ces bons pères de Jorvaux. Ah, si un pauvre proscrit comme moi avait une pareille maison en perspective et de pareils revenus annuels et mensuels, je donnerais beaucoup d'or et d'argent pour me racheter de la captivité.
Chien de juif ! S'écria le prieur. Personne ne sait mieux que ton maudit individu que notre sainte maison de Dieu s'est endettée pour l'achèvement de notre cœur.
Et pour l'approvisionnement de vos caves l'année dernière en vin de Gascogne, interrompit le juif. Mais c'est peu de chose, cela.
Entendez-vous ce chien d'infidèle ? S'écria le prélat.
Il voudrait faire croire que notre sainte communauté s'est endettée pour l'acquisition des vins, que nous avons obtenu la licence de boire. Propter necessitatem ad figus depelendum. Le vilain circoncis blasphème la Sainte Église, et des chrétiens peuvent l'entendre sans le punir.
Tout cela est inutile à l'affaire, dit le chef. Isaac, dis-nous quelle somme il peut payer sans lui enlever cuir et cheveux.
Une somme de 600 couronnes, dit Isaac. Et le bon prieur n'en sera pas moins douillettement assis dans sa stalle.
600 couronnes, dit gravement le chef.
Soit, je m'en contenterai. Tu as bien parlé, Isaac. 600 couronnes, c'est mon jugement, sire prieur.
Un jugement, crièrent les archers. Salomon n'en eut pas rendu un meilleur.
Tu as entendu ta condamnation, prieur, dit le capitaine.
« Vous êtes fous, mes maîtres !» reprit celui-ci. « Où trouverais-je une pareille somme ? Même en vendant jusqu'au ciboire et au chandelier de l'hôtel de Jorvaux, je pourrais à peine réunir la moitié de la somme, et il sera nécessaire pour cela que j'aille moi-même à Jorvaux. Vous garderez mes deux prêtres en otage. »
« Ce ne serait là qu'un dépôt illusoire, » dit la Outlaw. « Nous te garderons ici, prieur, et nous les enverrons chercher ta rançon. » Tu ne manqueras, en attendant leur retour, ni d'une coupe de vin, ni d'une tranche de venaison. Et si tu aimes la vénerie, tu verras des chasses telles que tes voisins du Nord n'en connaissent pas.
Ou bien, si cela vous plaît, reprit Isaac, voulant se concilier les bonnes grâces des outlaws,
je puis envoyer à York chercher les 600 couronnes, à prendre sur certaines sommes déposées entre mes mains, pourvu que le révérend prieur veuille bien m'en donner quittance à valoir.
Il te donnera tout ce que tu voudras, Isaac, dit le capitaine, et tu nous compteras la rançon du prieur en même temps que la tienne.
La mienne ? Dit le juif. Oh, vaillant forestier, je suis un homme ruiné et désespéré. Un bâton de mendiant serait tout ce qui me resterait si je vous payais seulement 50 couronnes.
Le prieur en jugera, reprit le capitaine.
Qu'en dites-vous, révérend prélat ? Le juif peut-il payer une bonne rançon ?
S'il peut payer une rançon, répondit le prieur.
N'est-il pas Isaac d'York, dont les richesses suffiraient pour acheter de la captivité les 10 tribus d'Israël qui furent emmenées en servitude dans la Syrie?
Mais notre sommelier et notre trésorier ont fait beaucoup d'affaires avec lui, et selon Léon dit, sa maison d'York est si pleine d'or et d'argent que cela fait honte à voir dans un pays chrétien. Tous les cœurs fidèles gémissent que ces sangsues rongeuses soient autorisées à dévorer les entrailles de l'État et de la Sainte Église elle-même, par leur vile avarice et par leurs extorsions.
« Un moment, prieur, dit le juif, calmez votre colère. Je prie votre révérence de se souvenir que je ne force personne à accepter mon argent. Mais lorsque les clercs et les laïcs, les princes et les prieurs, les chevaliers et les prêtres viennent frapper à la porte d'Isaac, ce n'est pas avec ces expressions malhonnêtes qu'ils sollicitent ces shekels. Alors c'est « Ami Isaac, voulez-vous nous obliger dans cette circonstance? Je serai exact au jour du remboursement. Que Dieu nous traite selon nos œuvres. » Ou bien « Bon Isaac, si jamais vous avez rendu service à votre prochain, montrez-vous notre ami dans cette occurrence. » Et quand le jour arrive et que je réclame mon bien, alors qu'entends-je si ce n'est « Juif damné, que la malédiction de l'Égypte soit sur ta tribu !» Toutes les invectives qui peuvent ameuter la sauvage et grossière populace contre les pauvres étrangers.
« Prieur, dit le capitaine, tout juif qu'il est, il a dit vrai cette fois. C'est donc à toi de fixer sa rançon, ainsi qu'il a fixé la tienne, sans d'autres mauvais propos.
Personne, si ce n'est un latrofamosus, parole dont je vous donnerai une autre fois l'interprétation, ajouta le prieur. Personne n'eût placé un prélat chrétien sur le même banc qu'un juif non baptisé. Mais puisque vous exigez que je taxe la rançon de ce pandard, je vous dirai franchement que vous vous feriez du tort à vous-même si vous receviez de lui un penny de moins que 1000 couronnes.
C'est mon jugement, mon jugement, s'écria le chef des outlaws.
C'est un jugement, un bon jugement, répétèrent les archers. Le chrétien a fait preuve d'un grand savoir-vivre. Il s'est conduit avec non moins de générosité que le juif.
Dieu de mes pères, venez à mon aide, s'écria le juif. Voulez-vous écraser une créature ruinée? Je suis aujourd'hui sans enfant. M'enlèverez-vous tout moyen d'existence?
Tu auras moins de charges si tu es sans enfant, dit Aymer.
Hélas, mon seigneur, répliqua Isaac, votre loi ne vous permet pas de savoir combien l'enfant de notre sang est enlacé dans les fibres de notre cœur. Oh, Rebecca, fille de ma bien-aimée Rachel, si chaque feuille de cet arbre était un sequin, que chacun de ces sequins m'appartint, je donnerais de bon cœur toute cette masse de richesses pour savoir si tu vis et si tu as échappé aux mains du Nazaréen.
Est-ce que ta fille n'avait pas les cheveux noirs? Demanda un des outlaws.
Et ne portait pas un voile de laine fine brodé d'argent?
Oui, oui, s'écria le vieillard tremblant d'impatience, comme il l'était auparavant de crainte. Que la bénédiction de Jacob t'accompagne. Peux-tu m'apprendre ce qu'elle est devenue?
C'était donc elle, continua le yéoman, qui était enlevé par le fier templier quand il a traversé nos rangs hier au soir. J'avais bandé mon arc pour lui envoyer une flèche, mais je l'ai épargné à cause de la jeune fille que mon trait aurait pu atteindre.
« Oh !» répondit le juif, plût à Dieu que tu eusses tiré, lors même que ta flèche lui eût percé le sein. Plutôt la tombe de ses pères que la couche déshonorante du libertin et féroce templier. Ichabod, la gloire de ma maison s'est éteinte. »
Mes amis, dit le chef en regardant autour de lui, ce vieillard n'est qu'un juif, néanmoins sa douleur me touche. Comporte-toi franchement avec nous, Isaac, dis-moi. Le paiement d'une rançon de 1000 couronnes, te laissera-t-il tout à fait sans ressources ?
Isaac, rappelé tout à coup à la pensée de ses biens terrestres, dont l'amour, par la force d'une habitude invétérée, balançait même son affection paternelle, pâlit, balbutia, et ne put nier qu'il lui resterait encore quelques petites choses.
« Eh bien, quand même il te resterait quelque chose, » dit Laoutlo. « Nous ne voulons pas y regarder de trop près. Tu pourrais aussi bien espérer d'arracher ton enfant des griffes de ce brillant de Bois Guilbert, sans payer rançon, que de percer un cerf royal avec une flèche sans pointe. Tu nous donneras la même rançon que le prieur Heimer, ou plutôt 100 couronnes de moins. Et afin que cette perte ne pèse pas sur notre honnête confrérie, je prends pour mon compte le sacrifice de ces 100 couronnes. De cette manière, nous éviterons le péché de taxer un marchand juif à un prix aussi élevé qu'un prélat chrétien. Et il te restera 500 couronnes pour traiter de la rançon de ta fille. Les Templiers aiment l'éclat des shekels d'argent, autant que celui de 2 beaux yeux noirs. Hâte-toi de faire sonner tes couronnes à l'oreille de Bois Guilbert avant qu'il ait fait pis. Tu le trouveras, à ce que m'ont dit nos éclaireurs, à la prochaine commanderie de son ordre. M'approuvez-vous, mes joyeux compagnons ?
Les Yéomen exprimèrent, comme de coutume, leur assentiment à l'avis de leur chef, et Isaac, soulagé de la moitié de ses craintes en apprenant que sa fille vivait et qu'elle pourrait être rachetée, se jeta aux pieds du généreux Outlaw. Et, frottant sa barbe contre ses brodequins, il cherchait à baiser le pan de sa casaque verte. Le capitaine se recula pour se dégager de l'étreinte du juif, non sans quelques marques de mépris.
« Allons, malpeste, relève-toi, vieillard. Je suis anglais et je n'aime pas ces prosternations avilissantes de l'Orient. Agenouille-toi devant Dieu et non devant un pauvre pécheur comme moi. »
« Oui, juif, interrompit le prieur Heimer. « Agenouille-toi devant Dieu, représenté par le fidèle serviteur de ses autels. Et qui sait si, par ton sincère repentir et des donations convenables à l'autel de Saint-Robert, tu n'obtiendras pas grâce pour toi et pour ta fille Rebecca. Je m'intéresse à cette jeune fille, car elle a la figure belle et agréable. Je l'ai vue à la joute d'Asby. Brian de Bois Guilbert est un homme sur qui j'ai quelque influence. Songe donc à mériter mon appui auprès de lui. »
« Hélas, hélas !» s'écria le juif. « De tous côtés, les spoliateurs se lèvent contre moi. Je suis donné en pâture aux Assyriens et aux enfants de l'Égypte. »
« Et quel autre lot ta race maudite a-t-elle mérité ?» répondit le prieur.
« Que dit la Sainte Écriture ?« Verbum domini progecerunt, et sapientia est nulla ineis. »
Ils ont rejeté la parole de Dieu, et la sagesse n'habite pas chez eux. Propterea dabo mulieres et aurum exteris. Je donnerai leurs femmes aux étrangers. C'est dans le cas actuel aux Templiers. Et thesauros et aurum o heredibus alienis. Et leurs trésors passeront en d'autres mains, comme dans le cas présent à ces honnêtes forestiers.
Isaac poussa un profond soupir, se tordit les mains et retomba dans son état de désolation et de désespoir. Mais le chef des Yéomen le prit à part.
« Réfléchis bien, Isaac, lui dit-il, à la façon dont tu vas agir en cette circonstance. Je te conseille de te faire un ami de ce prêtre. Il est aussi vain qu'il est cupide, et il lui faut beaucoup d'argent pour subvenir à ses profusions. Tu peux facilement satisfaire son avarice, car ne pense pas que je sois la dupe de ta prétendue pauvreté. Je connais même, Isaac, jusqu'au coffre-fort en fer où tu entasses tes sacs d'argent.
Bien plus. Ne connais-je pas la grande pierre qui est sous le pommier dans ton jardin à York et qui couvre un petit escalier par où l'on descend dans un caveau voûté ?
Le juif devint pâle comme un mort. « Mais ne crains rien de moi, » continua le yéoman, « car nous sommes de vieilles connaissances. Ne te rappelles-tu pas, le yéoman malade, que ta jolie fille Rebecca racheta des fers à York et qu'elle recueillit dans ta maison jusqu'à ce que sa santé fût rétablie, et à qui tu donnas, en le congédiant, une pièce d'argent ? Tout usurier que tu es, tu n'as jamais placé tes écus à meilleur intérêt que ne l'a été ce pauvre Marc d'argent, car il t'a valu aujourd'hui 500 couronnes.
Tu es donc celui qu'on appelle Richard Bandelarc ? Dit Isaac. Il me semblait bien que le son de ta voix ne m'était pas inconnu.
Oui, je suis Bandelarc, dit le capitaine. Je suis Locksley, et j'ai encore un autre nom.
Mais tu es dans l'erreur, dit Isaac.
« Mon brave Bandelarc, relativement à ce caveau voûté, je prends le ciel à témoin qu'il n'y a là que quelques marchandises que je te donnerai avec joie. 100 yards de drap vert de Lincoln pour faire des pourpoints à tes hommes, 100 de bâtons d'ifs d'Espagne pour faire des arcs, et 100 de cordes d'arc en soie, fortes, rondes et bien égales. Je te les enverrai par amitié, honnête Richard. » Si tu veux bien ne pas parler du caveau qui se trouve sous le pommier, mon brave Richard.
Je serai muet comme un loir, dit le capitaine, et sois persuadé que je suis affligé du malheur de ta fille. Mais je n'y peux rien. Les lances des Templiers sont trop fortes en race campagne pour mes archers. Ils nous disperseraient comme poussière. Si seulement j'avais été informé de l'enlèvement de Rebecca, j'aurais pu faire quelque chose. Mais à présent, il faut que tu agisses de politique. Allons, veux-tu que je traite pour toi avec le prieur ?
Au nom de Dieu, si tu le peux, mon brave Richard, aide-moi à recouvrer la fille de mon cœur, dit le juif.
Ne viens pas te jeter à la traverse de mes efforts avec ta funeste avarice, dit le capitaine, et je traiterai avec lui à ton avantage. Alors l'outlaw s'éloigna du juif, qui néanmoins le suivit comme son ombre.
« Prieur Heimer, dit le capitaine, viens avec moi sous cet arbre. On dit que tu aimes le vin et les sourires des dames, plus qu'il ne sied à ton ordre, sire prêtre, mais cela ne me regarde pas. J'ai ouï dire aussi que tu aimes une couple de bons chiens et un cheval rapide, et il peut se faire que, aimant des choses aussi coûteuses, tu ne détestes pas une bourse pleine d'or. D'un autre côté, je n'ai jamais appris que tu te fusses montré cruel ou oppresseur. Or, voici Isaac, qui consent à te donner le moyen de fournir à tes plaisirs et à tes passe-temps. Il te remettra un sac de 100 marks d'argent si ton intervention auprès de ton ami le Templier lui fait obtenir la liberté de sa fille.
« Libre et pure comme elle m'a été enlevée, » dit le juif. « Sans cela, point de marché. »«
Chut, Isaac, » reprit l'outlaw, « ou j'abandonne la cause. »«
Que dis-tu de cette proposition, prieur Heimer ?»«
La chose est assez embarrassante, » fit observer le prieur. « Car si d'une part je fais une bonne action, d'un autre côté c'est à l'avantage d'un juif. » Et ceci est contre ma conscience. Cependant, si l'Israélite veut servir l'Église en me donnant quelque chose de plus pour la construction de notre dortoir, je prendrai sur ma conscience de le servir au sujet de sa fille.
« Ce n'est pas 20 marks pour construire le dortoir, » dit le capitaine.
« Tais-toi, Isaac, ou des chandeliers d'argent pour l'autel qui nous empêcheront de conclure l'affaire. »
« Mais, mon bon Richard Bandelarc !» s'écria Isaac, cherchant à intervenir.
« Mon bon juif, mon bon animal, mon bon ver de terre !» s'écria le yéoman en perdant patience.
« Si tu continues de cette sorte à mettre des objections sordides dans la balance avec la vie et l'honneur de ta fille, de par le ciel, je te jure qu'avant 3 jours, je t'aurai dépouillé de ton dernier penny. »
Isaac baissa la tête et garda le silence.
« Mais quelle garantie aurais-je pour tout ce que vous me promettez ?» demanda le prieur.
« Quand Isaac reviendra, après avoir réussi par votre médiation, » dit Lautlot,
« je jure par Saint-Hubert que si nous vous payez pas la somme en bon argent, il aurait un tel compte à me rendre que mieux vaudrait pour lui qu'il l'eût payé 20 fois.
« Eh bien, donc, juif, » dit Eimer, « puisqu'il faut absolument que je me mêle de cette affaire, prête-moi tes tablettes. Mais attends, plutôt que de me servir de ta plume, j'aimerais mieux jeûner pendant 24 heures. Mais où en trouver une autre ?
Si tes saints scrupules peuvent condescendre à l'emploi des tablettes du juif, je me charge de trouver la plume, » dit le yéoman.
Et, bandant son arc, il envoya une flèche à une oie sauvage qui planait au-dessus de leur tête, avant-garde d'une phalange de ses compagnes qui se dirigeait vers les marais lointains et solitaires de Holderness. L'oiseau s'abattit en tournoyant, transpercé par la flèche.
« Là, révérend prieur !» s'écria le capitaine. « Voilà assez de plumes pour en fournir à tous les moines de Jorvaux pendant 100 ans, à moins qu'ils ne se mettent à écrire des chroniques. »
Le prieur s'assit et rédigea à son aise une épître à Brillant de Bois Guilbert, et ayant soigneusement scellé les tablettes, il les donna au juif en lui disant « Ceci sera ton sauf-conduit près de la commanderie de Templestown, et je pense que cette lettre contribuera à te faire rendre ta fille. De ton côté, demande-la avec des manières convenables, car sache-le bien, le bon chevalier de Bois Guilbert appartient à un ordre qui ne fait rien pour rien. »
Maintenant, prieur, s'écria le capitaine, je ne te retiendrai ici que le temps de donner aux Juifs une quittance pour les 500 couronnes auxquelles sa rançon est taxée. Je l'accepte pour banquier, mais si j'apprends qu'en effet la moindre difficulté de lui tenir compte de cette somme payée par lui, que la Sainte Vierge m'abandonne si je ne brûle pas le monastère, dussé-je être pendu 10 ans plus tôt.
Avec bien moins de bonne grâce qu'il n'avait rédigé la lettre à Bois Guilbert, le prieur écrivit une quittance déchargeant Isaac d'York de 500 couronnes à lui avancée pour l'acquit de sa rançon, et il promit sur sa foi de lui tenir fidèlement compte de cette somme.
« Et maintenant, dit le prieur Eimer, je vous demanderai de me faire la restitution de mes mules et de mes palefrois, et la mise en liberté des révérends pères qui m'accompagnent, et de me remettre les bagues, les bijoux et les riches vêtements dont j'ai été dépouillé, puisque ma rançon est acquittée.
Quant à vos frères, prieur, répliqua Locksley, ils seront élargis sur le champ, car il serait injuste de les retenir. Quant à vos chevaux et à vos mules, ils vous seront également rendus, avec une somme suffisante pour gagner York, car il serait cruel de vous priver des moyens de voyager. Mais en ce qui concerne les bagues, les bijoux, les chaînes et autres objets semblables, il faut que vous compreniez que nous sommes des hommes de trop de conscience pour laisser à un homme aussi vénérable, mort comme vous devez l'être aux vanités de ce monde, la forte tentation de violer les règles de son ordre en portant des bagues, des chaînes et autres objets mondains.
« Songez à ce que vous faites, mes maîtres, » répondit le prieur, « avant de porter les mains sur le patrimoine de l'Église. Ces choses sont in terra res sacras, et je ne sais ce qui pourrait s'en suivre si elles étaient souillées par des mains profanes. »
« Soyez tranquille à cet égard-là, révérend prieur, » dit l'ermite de Copmanhurst. « C'est moi qui me chargerai de ce soin. »
« Ami ou frère, » répondit le prieur, fort peu satisfait de cette manière de résoudre ses scrupules. « Si tu as réellement reçu les ordres religieux, je te prie de réfléchir au compte que tu auras à rendre à ton supérieur pour la part que tu as prise à ce qui s'est passé aujourd'hui.
« Ami prieur, répliqua l'ermite, il faut que vous sachiez que j'appartiens à un petit diocèse dont je suis en même temps l'évêque, et que je me soucie aussi peu de celui de York que de l'abbé de Jorvaux et de tout son couvent.
« Tu es absolument hors de la voie, dit le prieur. Tu es un de ces hommes désordonnés, qui, se revêtant du caractère sacré sans autorisation, profanent les rites du culte et mettent en péril les âmes de ceux qui se fient à leurs conseils. Lapides propane condonantes eis, leur donnant des pierres au lieu de pain, comme dit la Vulgate.
Non, dit le frère, si ma cervelle s'était rompue au latin, elle n'eût pas tenu bon si longtemps. Je maintiens que c'est un acte légitime que de soulager un tas de prêtres arrogants comme toi de leurs bijoux, de leurs vins oripeaux.
Tu es un edjupuest, dit le prieur en colère. Excommunicabo vos, je vous frapperai d'excommunication.
Tu ressembles bien plus que moi à un voleur et à un hérétique, dit le moine également irrité.
Je ne veux pas qu'on m'insulte devant mes ouailles, ainsi que tu n'as pas honte de le faire, bien que je doive être pour toi un frère révérend. Ossa eius per fringam, je briserai les os, comme dit la Vulgate.
Holà ! Cria le capitaine. Des frères révérends peuvent-ils en venir aux injures ? Restez en paix, fou de moine !
Sire prieur, si tu n'es pas en parfait état de grâce, ne provoque pas davantage le frère. Et toi, ermite, laisse le révérend père s'en aller en paix, comme un homme qui a payé sa rançon.
Les hyomènes séparèrent les prêtres irrités, qui continuaient à élever la voix, s'apostrophant l'un l'autre en mauvais latin, que le prieur débitait plus couramment et l'ermite avec plus de véhémence. Enfin, l'abbé revint assez à lui pour sentir qu'il compromettait sa dignité en ergotant ainsi avec un prêtre de l'espèce du chapelain des Outlaws. Et, sa suite étant venue le rejoindre, il se mit en route avec beaucoup moins de pompe et dans un état bien plus apostolique quant au dehors mondain que lorsqu'il était arrivé. Il ne restait plus qu'à demander aux Juifs quelques garanties pour la rançon qu'il avait à payer pour le compte de l'abbé, ainsi que pour le sien. Il donna en conséquence un ordre scellé de son cachet adressé à un frère de sa tribu à York, le chargeant de payer au porteur la somme de 1000 couronnes et de lui délivrer certaines marchandises qui se trouvaient spécifiées dans la note.
« Mon frère Sheva, ajouta-t-il avec un profond gémissement, à la clé de mes magasins.
Et celle du caveau voûté ?
Demanda Locksley à voix basse.
Non, non, à Dieu ne plaise ! S'écria Isaac. Maudite soit l'heure qui t'a fait connaître ce secret.
Il est en sûreté avec moi, répondit le capitaine. Aussi vrai que ce chiffon de papier vaut la somme qui y est mentionnée.
Mais qu'y a-t-il, Isaac ? Es-tu anéanti ? Le paiement de 1000 couronnes te fait-il oublier le danger de ta fille ?
Le juif se dressa sur ses pieds.
« Non, bon Richard, non, dit-il, je pars à l'instant. Adieu. Toi que je ne puis appeler honnête, mais dont je n'ose ni ne veux dire du mal. »
Toutefois, avant le départ d'Isaac, le chef des Outlaws lui donna ce dernier avis.
« Sois libéral dans tes offres, Isaac, et n'épargne pas ta bourse pour l'amour de ta fille. Crois-moi. » L'or que tes lésineries t'empêcheront de donner dans l'intérêt de son sort te causera autant d'angoisse dans l'avenir que si on te le versait fondu dans le gosier.
Isaac poussa un profond soupir et partit, accompagné de 2 gigantesques forestiers qui devaient lui servir à la fois de guide et de protecteur à travers la forêt. Le chevalier noir, qui avait suivi avec beaucoup d'intérêt ces divers incidents, prit alors congé des Outlaws. Mais il ne put s'empêcher d'exprimer son étonnement de voir tant de règles administratives parmi des gens privés de la protection des lois et qui en avaient secoué le joug.
« Le bon fruit, messire chevalier, dit le yeoman, croît quelquefois sur un mauvais arbre, et des temps mauvais ne produisent pas toujours un mal sans mélange. Au nombre de ceux qui sont entraînés dans cet état d'insubordination, il y en a sans doute beaucoup qui veulent apporter quelque modération jusque dans leur licence, et d'autres peut-être qui regrettent d'être forcés de poursuivre un pareil métier.
Et si je ne me trompe, je parle maintenant à un de ces derniers, dit le chevalier noir.
Sire chevalier, reprit l'outlaw, chacun de nous deux a son secret.
Vous êtes libre de vous former un jugement sur moi, et moi, je puis faire des conjectures à votre égard, bien que le trait de chagrin de nous n'atteigne peut-être pas le but. Mais comme je n'ai pas cherché à pénétrer votre secret, ne vous offensez pas de ce que je garde le mien. »
« Je vous demande pardon, brave outlaw, » répliqua le chevalier. « Votre reproche est juste, mais il se pourra que nous nous rencontrions par la suite avec moins de mystère de part et d'autre. En attendant, nous nous quittons amis, n'est-ce pas ?»«
Voici ma main, » s'écria Locksley, « et j'ose dire la main d'un loyal anglais, bien que pour le moment elle soit celle d'un outlaw.
Et voici la mienne, » répondit le chevalier, « et je la tiens honorée d'être serrée par la vôtre, car celui qui fait le bien, ayant le pouvoir illimité de faire le mal, mérite nos louanges, non seulement pour le bien qu'il accomplit, mais encore pour le mal qu'il s'abstient de faire. Adieu, vaillant outlaw. »
Ainsi se séparèrent ces deux loyaux amis, et le chevalier au cadenas, montant sur son grand cheval de guerre, se dirigea vers l'issue de la forêt.
Chapitre 34. Il y avait une grande fête au château d'York, où le prince Jean avait invité les nobles, les prélats et les chefs, sur l'assistance desquels il comptait pour la réussite de ses projets ambitieux à l'endroit du trône de son frère. Waldemar Fitzurse, son agent politique, homme habile, les travaillait tous en secret, et cherchaient à leur inspirer le degré de courage qui leur était nécessaire pour déclarer ouvertement leurs sentiments. Mais leur entreprise était retardée par l'absence de plusieurs des principaux membres de la Confédération. Le courage inflexible et audacieux, bien que brutal, de Front de Bœuf, l'énergique vivacité et le maintien résolu de De Bracy, la sagacité, l'expérience martiale et la valeur renommée de Brillant de Bois-Guilbert étaient des éléments importants pour le succès de leur conspiration. Mais tout en maudissant en secret leur absence, dont ils ne pouvaient concevoir le motif, ni Jean ni son ministre n'osaient agir sans eux. Isaac le Juif semblait aussi s'être évanoui, et avec lui, l'espoir de certaines sommes d'argent formant les subsides pour lesquels le prince Jean avait fait un traité avec cet Israélite et ses frères. Or, dans une situation si critique, le manque d'argent pouvait jeter dans de grands embarras. Ce fut dans la matinée qui suivit la chute de Torquilstone qu'une rumeur confuse commença à se répandre dans la ville d'York, disant que De Bracy et Bois-Guilbert, avec leur allié Front de Bœuf, avaient été pris ou tués. Waldemar en apporta la nouvelle au prince Jean, ajoutant qu'il craignait qu'elle ne fût vraie, d'autant plus qu'ils étaient partis avec une suite peu nombreuse, dans le dessein d'attaquer le Saxon Cédric et son cortège. En toute autre occasion, le prince eût regardé cet acte de violence comme une bonne plaisanterie. Mais en ce moment, il traversait ses plans et il nuisait à ses projets. Il s'emporta contre les coupables, parla de lois enfreintes, de perturbations de l'ordre public et de violations de la propriété privée, d'un ton qui aurait convenu au grand Alfred.
« Maraudeurs effrénés ! » s'écria-t-il. « Si jamais je deviens roi d'Angleterre, je pendrai ces pillards au pont-levis de leur propre château. »
« Mais pour devenir roi d'Angleterre, » dit froidement son Architophel, « il est nécessaire non seulement que votre grâce supporte le pillage de ces maraudeurs effrénés, mais encore qu'elle leur accorde sa protection, en dépit de son zèle fort louable pour le maintien des lois qu'ils ont l'habitude d'enfreindre. Nous serions dans une belle position si ces rustres de Saxons avaient réalisé l'idée de votre grâce, » en convertissant en gibet ses ponts-levis féodaux. Et cet audacieux Cédric me paraît un homme à l'esprit duquel une telle imagination peut se présenter. Votre grâce sait combien il serait dangereux de faire un mouvement sans Front de Bœuf, De Bracy et le Templier. Et cependant, nous nous sommes trop avancés pour pouvoir reculer sans péril. »
Le prince Jean se frappa le front avec impatience, puis il se mit à arpenter l'appartement.
« Les traîtres !» dit-il, les misérables traîtres, m'abandonner dans une crise pareille.
Dites plutôt les étourdis à la tête écervelée, s'écria Waldemar, qui s'amusent à des folies quand des affaires si urgentes pèsent sur nos bras.
Que faut-il faire ? Demanda le prince en s'arrêtant court devant Waldemar.
Je ne crois pas que nous puissions faire autre chose que ce que j'ai ordonné, répondit le conseiller. Je ne suis pas venu déplorer ce malheur avec votre grâce sans m'être efforcé d'y trouver un remède.
Tu es toujours mon bon ange, Waldemar, s'écria le prince. Et avec un chancelier tel que toi, dans mes conseils, le règne de Jean deviendra célèbre dans nos annales. Mais quelles sont les mesures que tu as prises ?
J'ai ordonné à Louis Winkelbrand, le lieutenant de De Bracy, de faire sonner le bout de selle, de déployer sa bannière et de se rendre immédiatement au château de Front de Bœuf, afin de faire tout ce qui sera possible pour secourir nos amis.
La figure du prince Jean rougit de colère, comme celle d'un enfant gâté qui croit avoir reçu un affront.
« Par la face de Dieu !» dit-il. « Waldemar Fitzurse, tu as pris là beaucoup sur toi. Tu es par trop présomptueux de faire sonner de la trompette ou lever la bannière, dans une ville où nous nous trouvons, sans commandement exprès. »
« Je demande pardon à votre grâce, » dit Fitzurse, tout en maudissant intérieurement la sotte vanité de son maître.
« Mais comme le temps pressait et que la perte de quelques minutes pouvait nous devenir fatale, j'ai cru devoir prendre cela sur moi, en une occurrence qui importe si fort aux intérêts de votre grâce. »«
Tu es pardonné, Fitzurse, » reprit le prince gravement. « L'intention excuse ta folle témérité. »
« Mais qui nous arrive ici ? Par la croix, c'est De Bracy lui-même, et il vient à nous dans un étrange équipage. »
C'était véritablement De Bracy, couvert de la tête aux pieds de boue et de poussière, et le visage enflammé par la rapidité de sa course. Son armure portait tous les indices d'un combat récent. Elle était brisée et souillée de sang, depuis le cimier jusqu'à l'éperon. Il ôta son casque, le plaça sur la table et resta un moment à reprendre haleine.
« De Bracy ! » s'écria le prince Jean. « Que signifie tout ceci ? Parle, je te l'ordonne. Les Saxons sont-ils révoltés ?»«
Parle, De Bracy ! » dit Fitzurse presque en même temps que son maître. « Tu avais coutume d'être un homme. Où est le Templier ? Où est Front de Bœuf ?»«
Le Templier est en fuite. » répondit De Bracy. Front de Bœuf, vous ne le verrez plus. Il a trouvé une tombe de feu sous les poutres embrasées de son propre château, et je crois que je suis seul échappé au désastre pour vous en apporter la nouvelle.
Cette nouvelle nous glace d'effroi, dit Waldemar. Elle est en effet bien désastreuse.
Je ne vous ai pas encore appris la plus mauvaise de ces nouvelles, répondit De Bracy.
Et s'approchant du prince Jean, il continua d'un ton lent et solennel.
« Richard est en Angleterre. Je l'ai vu et je lui ai parlé. »
Le prince Jean devint pâle, chancela et saisit pour se soutenir le dossier d'un banc de chêne, semblable à un homme frappé inopinément d'une flèche meurtrière.
« Tu es fou, De Bracy, » dit Fitzurse. « Cela ne peut être. »
« C'est pourtant la vérité, » répliqua De Bracy. « J'ai été son prisonnier et je lui ai parlé. »«
Tu as parlé à Richard Plantagenet, dis-tu ? »
reprit Fitzurse.
« À Richard Plantagenet, » répliqua De Bracy. « À Richard Cœur de Lion, à Richard d'Angleterre. »«
Tu as été son prisonnier ? » continua Waldemar.
« Il est donc à la tête d'une force militaire ? »
Non. Quelques yéomen hors la loi se trouvaient auprès de lui, et ceux-ci ne le connaissaient pas. Je lui ai entendu dire qu'il était sur le point de se séparer d'eux. Il ne s'est joint à leur bande que pour les assister dans le siège de Torquilstone.
« Oui, dit Fitzurse, c'est un trait digne de Richard, d'un véritable chevalier errant à la recherche des aventures, se fiant à la force de son bras, comme un nouveau Guy ou un Sir Bewis, tandis qu'il néglige les affaires de son royaume et le soin de sa propre sûreté.
Et que comptes-tu faire, de Bracy ?
Moi, répondit le malheureux Normand, j'ai offert à Richard le service de mes lances et il les a refusées. Je vais les conduire à Hull, m'emparer d'un vaisseau et m'embarquer pour la Flandre. Grâce à ce temps d'agitation, un homme d'action trouve toujours de l'emploi.
Et toi, Waldemar, veux-tu prendre la lance et l'épée ? Mettras-tu de côté tes intrigues politiques ? Et viendras-tu partager le sort que Dieu nous enverra ?
Je suis trop vieux, Maurice, et j'ai une fille, répondit Waldemar.
Donne-la-moi, fit Durs, et je la ferai honorer selon son rang, avec le secours de ma lance.
Non, non, répondit Fitzurs. Je me réfugierai dans la sainte église de Saint-Pierre. L'archevêque m'a juré foi et amitié.
Pendant ce discours, le prince Jean était à peu près sorti de la stupeur dans laquelle l'avait plongé cette nouvelle inattendue, et il avait écouté avec attention la conversation de ses deux courtisans.
« Ils se détachent de moi, » pensa-t-il. Ils ne tiennent pas plus à ma personne qu'une feuille desséchée ne tient à la branche quand la brise d'automne souffle sur elle. Enfer et démon ! Ne puis-je trouver de ressources en moi-même quand ces lâches me délaissent ?
Il s'arrêta, et une expression diabolique vint animer le rire contraint par lequel il interrompit leur conversation.
« Ah ! Mes bons seigneurs ! » dit-il, « par l'auréole de Notre-Dame ! Je vous croyais des hommes sages, des hommes hardis, des hommes d'un esprit prompt, et cependant vous abandonnez richesse, honneur, plaisir, et vous renoncez à la noble partie où vous êtes engagé, au moment même où un coup hardi peut vous la faire gagner.
Je ne vous comprends pas, dit de Bracy. Dès que la nouvelle du retour de Richard se sera répandue, nous le verrons à la tête d'une armée, et pour nous tout sera fini. « Je vous conseille, monseigneur, ou de vous réfugier en France, ou de recourir à la protection de la reine-mère. »«
Ce n'est pas pour moi que je crains, » repartit le prince Jean avec hauteur. « Pour ma sûreté personnelle, il ne m'en coûterait qu'un mot à dire à mon frère. Mais, quoique vous soyez si prompt à m'abandonner, de Bracy, et vous aussi, Waldemar Fitzurse, je ne verrai pas avec plaisir vos têtes se dessécher là-bas sur la porte de Clifford. Penses-tu, Waldemar, que l'astucieux archevêque ne te laisserait pas enlever les marches même de l'autel, s'il faisait par là la paix avec le roi Richard ? Et toi, de Bracy, oublies-tu que Robert d'Estouteville se trouve avec toutes ses forces entre toi et la ville de Hull, et que le comte d'Essex rassemble les siennes ? Même avant le retour de Richard, nous avions quelques raisons de craindre s'élever. Penses-tu qu'on puisse avoir à présent quelques doutes sur le parti que prendront leurs chefs ? Crois bien que d'Estouteville seul est assez puissant pour jeter dans l'Humber toutes tes compagnies franches. »
Waldemar Fitzurse et de Bracy se regardèrent l'un l'autre d'un air déconcerté.
« Il n'y a qu'une voie de salut pour nous sauver tous, » ajouta le prince. Et son front devint sombre comme la nuit. « L'objet de notre terreur voyage seul. Il faut marcher à sa rencontre. »«
Ce ne sera pas moi !» reprit vivement de Bracy. « J'ai été son prisonnier et il a eu compassion de moi. Je ne toucherai pas à une plume de son cimier. »«
Qui parle de le toucher ?» répondit le prince Jean avec un rire sinistre.
« Le drôle va dire tout à l'heure que je lui ai donné l'ordre de tuer mon frère. »«
Non !» Une prison vaut mieux, et qu'importe que ce soit en Bretagne ou en Autriche, les choses seront seulement au point où elles en étaient. Quand nous avons commencé notre entreprise, elle était fondée sur l'espérance que Richard resterait captif en Allemagne. Eh bien, notre oncle Robert ne mourut-il pas détenu au château de Cardiff ?
Il est vrai, répondit Waldemar. Mais votre aïeul Henri était un peu plus solidement assis sur son trône que ne l'est votre grâce. Moi, je dis que la meilleure prison est celle que creuse le fossoyeur. Il n'y a pas de donjon qui vaille le caveau d'une église. J'ai dit ma pensée.
Que ce soit une prison ou une tombe, reprit de Bracy, je m'en lave les mains.
Lâche ! S'écria le prince courroucé. Voudrais-tu nous trahir ?
Je n'ai jamais trahi personne, dit De Bracy avec hauteur, et l'épithète de lâche ne doit point m'être adressée.
Paix, sire chevalier, dit Waldemar, et vous, monseigneur, pardonnez aux scrupules du vaillant De Bracy. J'espère que bientôt il les aura surmontés.
Ceci est au-dessus de votre éloquence, Fitzurs, répondit le chevalier.
Mon bon Maurice, ajouta le rusé politique, ne te gabre pas comme un cheval effrayé sans examiner du moins l'objet de la terreur. Hier encore, ton plus grand désir était de rencontrer ce Richard face à face dans la bataille. Je t'ai entendu le dire 100 fois.
Oui, répliqua De Bracy, mais c'était, comme tu dis, face à face, sur un champ de bataille. Tu ne m'as jamais entendu émettre la pensée de l'assaillir quand il serait seul et dans une forêt.
Tu n'es pas un bon chevalier si un tel scrupule t'arrête, dit Waldemar. Est-ce sur des champs de bataille que Lancelot du Lac et Sire Tristan ont acquis leur renom? Ne fût-ce pas plutôt en attaquant de gigantesques chevaliers sous l'ombrage de forêts sombres et inconnues?
Oui, mais je te garantis, reprit De Bracy, que ni Tristan ni Lancelot n'eussent été de pair seul à seul avec Richard Plantagenet, et je ne crois pas que ce fût dans leurs habitudes de se mettre à la tête d'une compagnie pour aller attaquer un homme seul.
Tu es fou, De Bracy, dit Waldemar. Que te proposons-nous donc, à toi, capitaine salarié et engagé des compagnies franches, et dont l'épée est au service du prince Jean? On te montre l'ennemi, et tu fais des objections quand la fortune de ton maître, celle de tes amis, la tienne, et la vie et l'honneur de chacun de nous sont en jeu.
Je te dis, répond De Bracy d'un air déterminé, qu'il m'a donné la vie. Il est vrai qu'il m'a éloigné de sa présence et qu'il a refusé mon hommage. Par conséquent, je ne lui dois ni amitié ni allégeance, mais je ne veux pas lever la main contre lui.
Cela n'est pas nécessaire, dit Waldemar. Envoie Louis Winkelwand et une 20aine de tes lances.
Tu as assez de coquins à ta disposition pour accomplir cet exploit. Pas un de mes hommes n'y prendra part.
Tu es bien opiniâtre, De Bracy, dit le prince Jean. Veux-tu donc m'abandonner après tant de protestations de zèle et de dévouement?
Je n'en ai pas l'intention, répliqua le chevalier. Je vous soutiendrai en tout ce qui convient à un chevalier, soit dans l'hélice, soit dans la mêlée. Mais ces expédients de grand chemin ne font point partie de mes devoirs.
Approche, Waldemar, dit le prince Jean. Ne suis-je pas un prince malheureux? Mon père, le roi Henri, avait des serviteurs fidèles. Il n'eut qu'un mot à dire et se vit débarrassé d'un prêtre factieux. Et le sang de Thomas Becket, tout saint qu'il était, rougit les marches de son propre hôtel. Tracy, Morville, Brighton, braves et loyaux sujets, votre courage entreprenant est éteint comme votre nom. Et quoique Reginald Fitzurse ait laissé un fils, ce fils a dérogé de la fidélité et du courage de son père.
Il a hérité de l'une et de l'autre, s'écria Waldemar Fitzurse.
Et puisque nous ne pouvons mieux faire, je prendrai sur moi la conduite de cette périlleuse entreprise. Cependant, mon père paya cher le titre d'ami zélé, et les preuves de fidélité qu'il donna à Henri étaient bien loin d'égaler la tâche que je vais entreprendre, car j'aimerais mieux attaquer tous les saints du calendrier que de lever ma lance contre Richard Cœur de Lion. De Bracy, je te confie le devoir de ranimer les esprits vacillants et de protéger la personne du prince Jean. Si tu reçois des nouvelles telles que j'ai l'espoir de t'en envoyer, notre entreprise aura bientôt changé d'aspect.
Page, ajouta-t-il, cours chez moi et préviens mon écuyer qu'il est à tenir mes armes prêtres. Dis à Étienne Vétéral, à Bois de Torresby et aux trois lances de Spinglow de venir me trouver sur le champ. Que le chef des éclaireurs, Hugh Bardon, se tienne prêt à recevoir mes ordres. Adieu, mon prince, jusqu'à un temps meilleur. En disant ces mots, il sortit de l'appartement.
Il part pour arrêter mon frère, dit le prince Jean à De Bracy, avec aussi peu de remords que s'il ne se fût agi que de la liberté d'un Franklin saxon. J'espère qu'il suivra nos ordres et qu'il aura pour la personne de notre cher frère Richard tout le respect convenable. » De Bracy ne répondit que par un sourire. « Par l'auréole de Notre-Dame !» s'écria le prince Jean. « Nos ordres à cet égard ont été formels, quoique peut-être tu ne les aies pas entendus, les ayant donnés à l'écart dans l'embrasure de la fenêtre. Nos recommandations de respecter la vie de Richard sont très claires et très positives, et malheur à la tête de Valdemar s'il les transgresse. Je ferai bien alors de me rendre chez lui, dit De Bracy, et de lui réitérer plus positivement le désir de votre grâce, car puisque cette instruction a complètement échappé à mon oreille, il se pourrait qu'elle ne fût pas parvenue non plus à celle de Valdemar. Non, non, dit le prince Jean avec impatience. Je te promets qu'il m'a entendu. D'ailleurs, j'ai d'autres occupations à te confier. Viens, Maurice, laisse-moi m'appuyer sur ton épaule. » Ils firent un tour par la salle dans cette attitude familière, et le prince Jean, avec un air de la plus intime confidence, ajouta. « Que penses-tu de ce Valdemar Fitzurse, mon cher De Bracy ? Il s'attend à être notre chancelier. Certainement, nous ferons plus d'une réflexion avant de donner un emploi de si haute importance à un homme qui montre évidemment combien il respecte notre sang, par son empressement à se charger de cette entreprise contre Richard. Tu penses, j'en suis certain, que tu as perdu quelque peu de nos bonnes grâces en ayant refusé si hardiment cette tâche désagréable. Mais non, Maurice, je t'honore davantage pour ta vertueuse résistance. Il est des choses qu'il nous importe de voir exécuter, mais dont nous ne pouvons ni aimer ni honorer l'exécuteur. Et certains refus de nous servir placent haut dans notre estime ceux qui ont eu le courage de les faire. L'arrestation de mon malheureux frère n'offre pas un aussi bon titre à la haute dignité de chancelier que ton refus chevaleresque et courageux au bâton de grand maréchal. Songe-y, De Bracy, et commence dès aujourd'hui à en remplir les fonctions.
Tyran inconstant, murmura De Bracy en s'éloignant du prince. « Malheur à ceux qui se fient à toi, ton chancelier, vraiment. Celui qui aura la garde de la conscience n'aura pas, je le pense, une tâche difficile. Mais grand maréchal d'Angleterre !»
Ceci, ajouta-t-il en étendant son bras comme pour saisir le bâton de commandement et se donnant une démarche plus hautaine dans l'antichambre,
« ceci est, en effet, un prix qui vaut qu'on le dispute. »
De Bracy eut à peine quitté l'appartement que le prince Jean appela.
« Dites à Hugues Bardon, le chef des éclaireurs, de venir ici dès qu'il aura parlé à Valdemar Fitzurse. »
Le chef des batteurs d'estrade arriva, après un court délai, que Jean avait employé à arpenter la salle d'un pas égal et agité.
« Bardon, lui dit-il. Que t'a demandé Valdemar ?
Deux hommes résolus, connaissant parfaitement les landes du Nord et habiles à suivre les pas de l'homme et du cheval.
Et tu les lui as donnés ?
Votre grâce peut s'en rapporter à moi, répondit le maître des éclaireurs. L'un d'eux vient du Exhamshire, il est habitué à suivre la piste des voleurs du Tynedale et de Teviotdale, comme le limier suit la trace du daim blessé. L'autre, né dans le Yorkshire, a souvent fait vibrer la corde de son arc dans la forêt joyeuse de Sherwood. Il connaît toutes les clairières et tous les vallons, tous les taillis et tous les grands bois, entre York et Richmond.
« C'est bien, » dit le prince. « Valdemar part-il avec eux ?»«
À l'instant même, » dit Bardon.
« Quelle suite prend-il avec lui ?» demanda Jean nonchalamment.
Le trapu Thoresby, homme d'une hardiesse à toute épreuve. Wetterall, que sa cruauté a fait surnommer Étienne Cœur d'Acier, et trois hommes d'armes venus du Nord, qui faisaient partie de la bande de Ralph Middleton et qu'on appelle les Braves de Spinglow.
« C'est bien, » répondit le prince Jean.
Puis, après un moment de silence, il ajouta « Bardon, il est essentiel pour notre service que tu surveilles de près Maurice de Brassy, de manière pourtant qu'il ne s'en aperçoive pas. Tu me feras connaître de temps en temps ses démarches, les gens qu'il voit et ce qu'il se propose de faire. N'y manque pas, car tu en seras responsable. » Hugh Bardon fit un salut respectueux et se retira. « Si Maurice me trahit, ainsi que sa conduite me le fait craindre, j'aurai sa tête. Quand même Richard frapperait aux portes d'York. »